Bonjour à tous. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Exode. Nous continuons notre parcours dans l'Exode. Et nous sommes au chapitre 3, page 40, pour ceux qui utilisent la même version que moi. Et je vais lire les 15 premiers versets. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le père de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle pas ?» L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Jusque-là, la parole de Dieu. Nous avons tous en tête quelques grands serviteurs de Dieu. Des personnes qui, par leur engagement, ont marqué l'histoire du peuple de Dieu ou l'histoire de l'Église, même plus proche de nous. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, par exemple, comment ne pas considérer la vie de Samuel, qui a établi la royauté en Israël, qui proclamera tout au long de sa vie la parole de Dieu, qui résistera à Saül et établira David comme roi. Ou comment est-ce qu'on ne pourrait pas être marqué par ce roi David qui va entraîner le peuple à sa suite, repousser les ennemis aux frontières, préparer Jérusalem à l'établissement du temple et de la présence de Dieu dans le pays? Comment ne pas être touché par l'incroyable ministère de Paul, plus proche de nous dans le Nouveau Testament, cet ennemi de l'Église qui, après sa conversion, va parcourir tout le pourtour de la Méditerranée. Au risque de sa vie, il va subir les injures, les injustices, les coups, les procès, les tentatives d'assassinat, et il va prêcher de ville en ville et implanter des dizaines d'églises dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Tous ces leaders ont en commun un appel de la part de Dieu à le servir. Et tous ont en commun que rien ne les prédestinait à la tâche que Dieu leur confiait. Samuel était un jeune garçon qui servait au sanctuaire de Silo. Il allait sans doute devenir un prêtre. David était un jeune berger, le plus jeune de ses frères, celui que Dieu choisit quand on a rejeté tous les autres. Paul était un ennemi de l'Église. Moïse, il n'était rien. Il n'était plus rien. De prince d'Égypte, du pays le plus avancé au monde, il est devenu un berger. Il garde des brebis dans un désert, et c'est même pas ses brebis, c'est celles de son beau-père. Il n'y a pas de mal à être berger, me direz-vous. Oui, c'est vrai, sauf pour un Égyptien. Parce qu'il n'y a rien de plus humiliant que d'être Égyptien et de garder des brebis. Souvenez-vous, en Genèse 46, Joseph fait venir sa famille en Égypte. Jacob arrive et voici ce que lui dit Joseph. « Je vais avertir le Pharaon. Je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient dans le pays de Canaan sont venus vers moi. Ces hommes sont des bergers, car ils élèvent du bétail. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Quand le Pharaon vous appellera et demandera, quelle est votre occupation ? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Goshen, puisque tous les bergers font horreur aux Égyptiens. » Grosso modo, il leur dit, puisque vous gardez des brebis et que les Égyptiens trouvent ça vraiment répugnant, ils vont vous laisser tranquille dans la région de Goshen. C'était vraiment humiliant. Le prince d'Égypte est devenu un berger. Un métier qui était haï par les Égyptiens. La première chose que l'on pourrait voir aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas empêché par notre échec. Et même si, comme pour Moïse, notre échec est dû à notre propre péché. Nous avons quelquefois du mal avec les secondes chances. Nous le ou la verrions bien servir à la louange, ou bien il a toutes les qualités pour être un ancien. Mais son péché passé se rappelle à notre souvenir. Est-ce que son divorce ou est-ce que sa condamnation pour fraude fiscale ne le disqualifie pas du service de Dieu ? Nous avons quelquefois du mal avec les secondes chances, mais Dieu, lui, n'a pas de problème avec ça. Moïse était un meurtrier, Jacob un tricheur, David un adultère et un meurtrier, Pierre un traître et un hypocrite, Paul un persécuteur des chrétiens, Marc a abandonné la première équipe missionnaire. Mais Dieu s'est servi de chacun d'entre eux. Voici ce que dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. C'est ce que doit découvrir Moïse. C'est ce que nous devons découvrir. Dieu n'appelle pas des qualifiés, il qualifie ce qu'il appelle. Je voudrais voir un premier point avec vous, c'est que Dieu appelle. C'est Dieu qui part à la recherche de Moïse dans ce texte, là où il est. La conversation avec Dieu ne se déroule pas alors que Moïse était en train de prier, en train d'intercéder Dieu ou en train d'offrir un sacrifice, il n'était pas au temple. Moïse est dans le désert. Il est en train de surveiller ses brebis. Ce n'est pas Moïse qui part à la recherche de Dieu. C'est Dieu qui conduit à Moïse, qui conduit Moïse là où il veut le rencontrer. Quand j'étais enfant, nous allions garder les brebis chez mes grands-parents. Ils habitaient une vallée et puis il y avait une montagne qui était sur le côté et puis c'était le domaine où on gardait les brebis. Et donc on partait avec le troupeau. Et ensuite, le troupeau, il allait là où il voulait. Hein. Ce n'est pas nous qui décidions où allait le troupeau. Notre boulot, c'était juste qu'il n'aille pas manger les châtaignes chez le voisin et de ramener tout le troupeau le soir. Mais c'est le troupeau qui vous conduit. Et Moïse est en train d'errer dans le désert et il suit le troupeau. Lui, son boulot, c'est juste de le laisser ensemble. Et le troupeau vient là. Il vient à la montagne d'Horeb, qu'on appellera plus tard la montagne de Dieu. Voici que ce troupeau avance, il cherche un endroit pour brouter, et Dieu est là. Moïse voit un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et le texte nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Alors c'est qui cet ange ? Cette expression, l'ange de l'Éternel, apparaît à environ 70 fois dans tout l'Ancien Testament. Elle ne désigne pas un ange comme, par exemple, Gabriel ou Michel. C'est vraiment quelque chose de particulier. Elle nous montre une représentation angélique de Dieu lui-même. Regardez au verset 2. L'ange de l'Éternel apparaît, mais au verset 4, c'est Dieu qui parle depuis le buisson. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, théophanie, ou pas. Mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas entendu avant. Une théophanie, c'est ce qu'on voit notamment dans l'Ancien Testament, c'est une manifestation visible du Dieu invisible. Et les pères de l'Église, et on désigne par pères de l'Église, les gens, les responsables d'Église qui venaient juste après les apôtres, voyaient dans ces théophanies une apparition de Christ avant son incarnation sur terre. En fait, Jésus existe avant d'être Jésus. Jésus ne devient Jésus que quand il naît, mais Jésus existe en tant que fils de Dieu depuis l'éternité passée. Lors de son incarnation, il est manifesté en chair. Lors de son incarnation, il rend visible le Dieu qui est invisible. Lorsque Jésus est venu sur terre, nous avons vu Dieu. Et Moïse voit Dieu. Et il le sait tout de suite. Il cache son visage. Donc c'est effectivement assez probable que nous soyons face à une apparition de Christ avant son incarnation. Et en tout cas, nous sommes dans la présence de Dieu. Moïse ne connaissait pas encore bien Dieu. On va voir ça plus tard. Et il va en découvrir tout de suite deux aspects. Le premier aspect qu'il va découvrir de Dieu, c'est sa gloire. Dieu est un feu qui brûle, un feu qui se suffit à lui-même et qui ne consume pas le bois. Le feu brûle, mais sans consumer le bois. Mais la première chose que Dieu va montrer vraiment à Moïse, c'est sa sainteté. Dieu lui dit « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il y a un problème avec ça, c'est que dans la Bible, c'est toujours l'impureté qui déteint sur la pureté. Lorsque le pur et l'impur sont en contact, c'est toujours le pur qui devient impur. Mettez des chaussettes dans votre machine à laver, des rouges et des blanches, lesquelles ressortent colorées. On n'a jamais vu les chaussettes rouges devenir blanches. C'est toujours les chaussettes blanches qui deviennent rouges. Et dans la Bible, il en est exactement de la même façon. Quand quelque chose de pur touche quelque chose d'impur, c'est toujours ce qui est pur qui devient impur, et jamais le contraire, sauf quand c'est Dieu. Sauf quand c'est Dieu. Ce que Dieu touche devient pur. Ésaïe dit « Mes lèvres sont impures. » Et Dieu touche ses lèvres. Et elles redeviennent pures. Dieu se présente à Moïse. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il essaye de lui dire ? Il veut lui dire que finalement, en fait, il était le Dieu du peuple des Hébreux avant qu'il aille en Égypte. Qu'est-ce qu'il essaye de communiquer à Moïse ? Pour le comprendre, il faut qu'on regarde en Marc 12, parce que Jésus va citer ce texte et va l'expliquer aux pharisiens. Si nous lisons dans Marc 12, au verset 26... sont en train de contester la résurrection, et Jésus va défendre la résurrection, et voici ce qu'il dit. « En ce qui concerne la résurrection des morts, N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson ? C'est bon, on est bien au bon endroit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et là, la conclusion de Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. On se dit, mais qu'est-ce qu'il essaye de dire ? Jésus est en train de citer ce que Dieu a dit à Moïse en rappelant ce contexte-là pour affirmer la résurrection. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Par là, il indique que Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas à classer parmi les morts, mais à classer parmi les vivants. Dieu révèle à Moïse qu'il est le Dieu qui sauve pour l'éternité, que Abraham, Isaac et Jacob sont au bénéfice de la relation avec Dieu. Nous avons perdu cette relation dans Éden, mais Dieu est là pour restaurer sa relation. Et la première information qu'il donne à Moïse, c'est dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis le Dieu qui sauve. » Et il va aller dans cette direction. Le Dieu qui appelle, c'est un Dieu qui intervient auprès des hommes. Il s'adresse aux hommes. Il le fait avec ses prophètes, il le fait avec son peuple Israël, il le fait avec chacun de nous. Dieu nous appelle parce qu'il veut nous sauver. Dieu nous appelle parce que nous étions morts et qu'il veut que nous soyons vivants. Dieu nous appelle parce qu'il doit se révéler. Romains 1 nous dit que la nature nous révèle un petit peu de Dieu finalement. Vous savez, c'est cette image qui dit que à travers les œuvres d'un artiste, on finit par comprendre qui il est. Et quand nous regardons la nature, et peut-être plus particulièrement en ce moment, on découvre la grandeur, la perfection de Dieu. Comment imaginer que tout a été créé à partir de rien ? Comment expliquer un tel déploiement d'inventivité, d'ingéniosité, de richesse sans un Dieu qui surpasse sa création ? Oui, mais lorsque vous regardez les tableaux d'un peintre, lorsque vous avez toutes ses œuvres devant ses yeux, vous ne savez pas encore grand-chose de lui. Vous ne savez peut-être même pas dire de quelle époque il est. Est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il a des enfants ? Quelles étaient ses relations avec ses parents, avec ses amis ? Quelles sont ses joies, ses souffrances ? Vous avez peut-être des idées de tout cela à partir de ces tableaux, mais en fait, vous avez aussi des milliers de questions sans réponse. Vous avez besoin que l'artiste vous parle. Vous avez besoin qu'il vienne et qu'il vous dise « Je suis ». Est-ce que vous avez déjà fait une balade au bord de la mer avec le soleil couchant ou perdu sur un petit sentier de montagne avec, et puis on est saisi par la beauté de la nature et cette impression qu'on est en train de communier avec Dieu? Et certaines personnes pensent qu'elles connaissent Dieu à cause de cela. C'est vrai en un sens. Ils découvrent la majesté de Dieu, mais il faut que Dieu parle. Nous avons besoin que Dieu vienne se révéler, qu'il nous appelle. Voici ce que Pierre dit dans son épître. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, de celui qui vous a appelé de l'obscurité dans laquelle vous êtes et vous ne voyez pas Dieu à sa merveilleuse lumière. Où vous comprenez qui il est. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a appelés. Il s'est révélé alors que nous étions dans les ténèbres. Il nous appelle et il nous donne une mission. Proclamer ses louanges, annoncer ses qualités. Dieu nous appelle et son nom est « Je suis ». C'est comme ça qu'il se révèle à Moïse. « Je suis ». Le verset 13 nous montre que Moïse ne connaît pas vraiment Dieu. Il a entendu parler de lui, mais il ne connaît pas vraiment. Vous savez, 400 ans d'esclavage en Égypte a dû faire que le peuple s'est éloigné de Dieu. Il s'est senti abandonné, Il a adopté d'autres dieux, nous le verrons plus loin dans l'Exode. Et finalement, ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Mais Dieu est « Je suis ». C'est celui qui a toujours été. Ce n'est pas un Dieu qui a été fabriqué par l'Égypte. Ce n'est pas un Dieu qui est un Dieu inconnu. C'est le Dieu qui a toujours été. C'est le Dieu qui a été avant même Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu qui était avant que tu arrives en Égypte. C'est le Dieu qui sera éternellement. Ce n'est pas un Dieu qui passera de mode. Ce n'est pas un Dieu qui cessera d'exister ou qui meurt. Ce n'est un Dieu qui sera éternellement là. C'est le Dieu qui sera là quand tu sortiras d'Égypte. C'est le Dieu qui t'accompagnera sur le chemin de l'Exode. Ce n'est pas un Dieu parmi les dieux. C'est le Dieu qui est. Tous les autres ne sont pas. Ils n'existent que par la volonté humaine de les imaginer, de les construire, de les faire vivre. Mais Dieu est indépendamment de l'homme, indépendamment de l'existence humaine. Il n'a pas besoin de nous pour exister. Dieu est. Je suis. Tout simplement. En quoi est-ce que c'est rassurant pour Moïse? Et en quoi est-ce que c'est rassurant pour nous aujourd'hui? Je suis. Dieu n'est pas prisonnier du temps. Il existe en dehors du temps. Je suis né il y a quelques années, et dans quelques années, si Christ n'est pas revenu, je serai mort. Et sans trop vouloir vous décevoir, vous le serez également. Et durant toute cette petite vie, nous sommes prisonniers du temps. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans l'ordre... Non. Eh non, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons dans l'ordre où nous le voulons. Nous sommes prisonniers du temps. Sinon, nous prendrions tous notre retraite à 20 ans. Ce que nous faisons, c'est juste légèrement anticiper les conséquences de nos choix. Nous faisons des études de médecin pour être médecin. Nous achetons une maison pour nous installer dans une région. Mais si je regarde en arrière, je n'avais pas prévu d'être pasteur et je n'avais pas prévu de déménager au moins 10 fois pour arriver ici. Je suis prisonnier du temps. Mais Dieu, non. Dieu est. Dieu est tout simplement. Je vais vieillir ou pas, je ne sais pas ce qui arrivera demain ou après-demain et encore moins dans 10 ans. Mais Dieu sait. Il le savait avant ma naissance. Il connaît tout ce qui se passe dans ma vie avant même que je sois né. Il connaît mes angoisses. Il connaît les causes de ces angoisses. Il connaît ce qui m'éprouve. Il en connaît la fin. Dieu est. Il connaît toute l'histoire et il vient à nous. Il nous appelle. Nous ne risquons rien. Dieu nous appelle et nous sommes dans ses mains. Nous ne risquons rien, ni pour la vie présente, ni pour la vie future. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu qui est le Dieu qui appelle est aussi le Dieu qui envoie. Un des privilèges que nous avons en tant que chrétiens, c'est que lorsque Dieu se fait connaître à nous, il nous appelle pour nous envoyer. Ce n'est pas « viens à moi et reste là », c'est « viens à moi et va ». L'Éternel dit au verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon, vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse, nous l'avons vu il y a 15 jours, je crois, lorsqu'il était en Égypte, avait trouvé sa vocation. Il voulait sauver son peuple. Il voulait prendre les choses en main. Mais Dieu ne l'avait pas appelé. Il fallait que le prince devienne un berger. Il fallait que le prince apprenne l'humilité. Et Dieu lui dit, « Écoute, Moïse, J'ai un plan. Et mon plan, c'est toi. 40 ans se sont écoulés et Moïse a bien changé. Il n'est plus prêt à se battre et il n'est pas vraiment convaincu par Dieu. Est-ce que Dieu vous a appelé? Est-ce que vous le connaissez par son nom? Son nom est Jésus. Si vous le connaissez, il vous a appelé et il vous a envoyé. Envoyé là où vous êtes pour sauver son peuple. Ce peuple qui ne le connaît même peut-être pas encore, mais dont les cris sont montés jusqu'aux cieux. Nous sommes entourés de personnes qui sont à la recherche de Dieu et qui ne le savent peut-être même pas. Des personnes qui sont esclaves depuis si longtemps, esclaves du maître de ce monde. Et ce maître est un mauvais maître, un maître cruel, un maître qui asservit par le péché, par le confort, par la souffrance, par le travail, par les loisirs, par le racisme, par la jalousie, par la religion, par toutes sortes de choses bonnes ou mauvaises, mais qui ont pris la place de Dieu. Dieu nous envoie pour proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Dieu a entendu vos cris et vous avez obtenu compassion de la part de Dieu. Dieu vient se révéler à Moïse. Il lui dit sa compassion pour son peuple. Il a vu sa souffrance. Il a entendu ses cris. Il connaît ses douleurs. Est-ce que nous connaissons les souffrances de ceux qui nous entourent? Est-ce que nous entendons leurs cris? Est-ce que nous comprenons leurs douleurs? Ou est-ce que nous disons juste, ils ne veulent pas de Dieu? Dieu appelle Moïse et il lui donne sa mission. Mais Moïse n'est pas vraiment convaincu. Et je ne sais pas si vous êtes convaincu ce matin que Dieu vous envoie en mission pour racheter ceux qui sont perdus. Moïse, lui, il pense que Dieu s'est trompé. Imaginez la scène. Il se promène dans le désert. Un buisson brûle sans se consumer. De ce buisson, Dieu l'appelle, lui parle. Il se révèle dans sa gloire, dans sa sainteté. Il lui parle de sa compassion pour ce peuple. Il lui dit que maintenant, il va le sauver. Et Moïse lui répond, tu t'es trompé de personne. Tout ça, il y a un problème. Tu sais que la dernière fois, ça s'est mal passé. Je sais pas où tu étais, toi. Mais je sais pas si tu as vu le désastre. Mais c'est fini pour moi. Je ne suis ni reconnu par les Égyptiens qui veulent me condamner à mort, ni même par mon peuple qui m'a rejeté. Je ne suis rien pour personne. Qui suis-je pour que tu penses à moi? Après tout, c'est une bonne question. Et Dieu ne lui fait pas de reproche. Je me souviens, c'est exactement la même question que j'ai posée un jour à Brad Dixon lorsqu'il m'a dit qu'il aimerait que je me forme pour être pasteur. Et c'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Qui suis-je pour être là devant vous? Moïse a eu 40 ans pour réfléchir à son échec et sa conclusion est juste. Qui suis-je pour aller sauver ce peuple? Qui suis-je pour témoigner à mes voisins ou au bureau à quoi ressemble ma vie? Est-ce qu'elle ressemble vraiment à la vie de Jésus-Christ? C'est loin d'être parfait. J'ai pas fait mes preuves. Qui suis-je pour servir à la louange? Qui suis-je pour être responsable ou ancien dans l'Église? Qui suis-je pour enseigner mes enfants ou enseigner les enfants des autres? Qui suis-je pour parler de Dieu? La réponse de Dieu est « Je serai ». La réponse de Dieu est « Je serai ». Je serai avec toi. Dieu lui dit « Ok, ça me va ». Ton CV vient d'être approuvé, Moïse. Tu as toutes les qualifications requises pour devenir le patron de mon peuple. Il n'y avait qu'une ligne à avoir sur ton CV. C'était que tu saches que tu n'es rien. Ok, Moïse, on va y aller. Tu n'as besoin que d'une seule chose, c'est de croire en moi. Regardez le signe que Dieu lui donne au verset 12. Quelle ironie. Voilà pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Ah, super, je vais avoir un truc, vous savez, comme Gédéon. Si c'est mouillé, c'est que c'est bon. Et puis le lendemain, si c'est sec, c'est que c'est bon. Voilà le signe que je vais te donner pour que tu crois en moi. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ah zut. Ah ouais, mais attendez, il y a un truc. Ah, parce que le signe, c'est après. C'est quand tu as fait le boulot, quand la mission est terminée, tu as le signe. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que la seule chose qui est nécessaire pour Moïse, la seule qualification que Dieu demande à Moïse, c'est celle qu'il a. C'est la foi. Moïse, tu vas devoir croire en moi jusqu'à ce qu'on soit revenus ici tous les deux, à cette même montagne. Moïse, tu vas devoir marcher par la foi. Moïse, ne compte pas sur toi. Compte sur moi. Peut-être que notre problème est inverse. Peut-être que nous croyons que nous sommes quelqu'un. Écoute Dieu, hey, je suis la bonne personne pour ton équipe. Franchement, mes compétences sont reconnues dans l'Église. J'ai une bonne capacité de travail. Tu sais, les gens m'écoutent. Ça, c'était Moïse. Mais 40 ans auparavant, et Dieu lui avait rien demandé. Et ça s'est mal terminé. Mais maintenant, Moïse a compris. Ce qui lui manque encore, c'est de connaître Dieu. Alors il dit à Dieu, mais qui est-ce que je dois annoncer? Si il me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu lui dit, je suis. Je suis celui qui suis ou je suis celui qui est. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Question qui se pose à nous. Qui est-ce que nous allons annoncer? Qui est-ce que nous allons annoncer? Regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 56. Il parle aux spécialistes de la loi et aux pharisiens. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Wow! Il y a juste quelques milliers d'années entre Abraham et Jésus. Alors on l'a refait. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui disent, et t'as pas encore 50 ans et t'as vu Abraham? Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et Jésus va sans arrêt utiliser cette formule. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie. Je suis, avant qu'Abraham fût, je suis. Si nous connaissons Jésus personnellement, si nous avons reconnu que nous sommes indignes d'être appelés par lui, parce que nous sommes pécheurs, si nous avons foi en lui, foi dans sa mort, dans sa résurrection à la croix. Alors nous avons vécu une expérience plus grande que celle de Moïse. Moïse a vu un buisson brûlé qui ne se consumait pas. Il a vu Dieu se révéler dans sa gloire et dans sa sainteté. Mais si nous avons rencontré Jésus-Christ, nous avons vécu une expérience plus grande que celle de Moïse. Parce que nous savons qui est je suis. Je suis, c'est Jésus. Parce que nous avons reçu l'esprit de je suis qui vient habiter en nous. Ce n'est pas une nuée qui se déplace un peu devant nous et on ne comprend pas trop, on suit. Et en plus, on va voir qu'à un moment, elle menace même de partir. Je suis. Et Dieu est éternellement avec nous, en nous. Par son esprit, il vit en nous. « Je suis » a été transcrit dans l'hébreu par quatre consonnes. Y, H, W, H. On ne sait même pas trop comment on doit prononcer ça. Yahweh, ou il y a tout plein de prononciations. Ça fait couler encore beaucoup d'encre aujourd'hui. Nous, nous connaissons son nom. Son nom est Jésus. La question qui se pose à chacun d'entre nous ce matin, avons-nous entendu son appel ? Y avons-nous répondu ? Peut-être que, comme Moïse, nous nous demandons « Qui suis-je pour te servir ?» Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qui ? Jésus. C'est en apprenant à connaître Jésus qui existe auprès de Dieu de toute éternité. Ce Jésus qui a eu compassion de nous. Ce Jésus qui s'est approché de nous, sur notre chemin, là où nous étions. Ce Jésus qui nous a appelés par notre nom en mourant sur la croix à notre place. Ce Jésus qui est ressuscité, qui est le Dieu des vivants et qui vit éternellement, qui vit en nous aujourd'hui. Ce Jésus qui nous fait vivre de son esprit et de sa grâce. Alors nous pouvons répondre oui. Je veux te servir. Par grâce, merci de me rendre capable de te suivre à ton appel. Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ce qu'il appelle. Et je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te remercier parce qu'il y a bien longtemps que tu es venu à moi dans la personne de Jésus. Tu m'as arrêté sur mon chemin, tu m'as arrêté dans mes ténèbres et tu es venu me révéler qui tu étais. Ce Dieu de toute éternité, ce Dieu puissant, créateur, ce Dieu qui vit éternellement, ce Dieu qui a envoyé Jésus sur une croix pour moi, pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous voulons te louer pour cet appel que tu as réalisé en Jésus-Christ en venant sur cette terre. Cette mort à la croix est un cri qui dit que tu as entendu notre détresse, que tu as entendu notre esclavage, que tu as entendu notre misère, que tu as vu les ténèbres dans lesquelles nous étions. Et tu es venu. Tu es venu pour nous chercher. Tu es venu pour chercher et pour nous appeler, pour que à notre tour nous puissions proclamer les louanges, tes vertus, tes qualités, annoncer qui tu es, ce que tu as fait à ce monde qui est perdu. Et qui ne le sait même peut-être pas. Nous te prions de nous conduire par la foi, de nous former, de nous façonner, de nous rendre capables. Nous ne sommes rien sans toi, mais toi, tu peux agir en nous. Tu peux infiniment plus que ce que nous pouvons même penser. Et nous te prions que tu te révèles dans cette Église, que nous apprenions à te connaître et que te connaissant mieux, nous te servions mieux et que d'autres personnes dans cette région puissent apprendre à te connaître et venir à toi. Nous te prions pour cette ville d'Étupes, nous te prions pour Montbéliard, Sochaux, Seloncourt, Héricourt, toutes ces villes qui nous entourent. Nous te prions que tu continues à appeler par notre intermédiaire. Nous te prions que des gens puissent se tourner avec toi. C'est encore un temps où tu attends, où tu es patient. Tu as attendu 400 ans. Pour l'Égypte, et tu attends encore aujourd'hui. Nous te prions encore, Seigneur, révèle-toi au travers de nous. Au nom de Jésus. Amen.